écrit d'ici avec le Ciala. C-I-A-L-A.
Collectif interculturel des auteurs de Loire-Atlantique.
Rencontrer un auteur, ça vous dit ?
Alors, retrouvez-nous le premier mercredi de chaque mois sur Jet FM 91.2 à 17h30 et en rediffusion le troisième mercredi du mois, toujours sur Jet FM 91.2 et toujours à 17h30.
Et en podcast sur jetfm.asso.fr.
Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bonjour Martine.
Bonjour.
Bonjour André.
Bonjour.
Et bonjour Béatrice Noury.
Bonjour.
Écrit d'ici, l'émission qui donne la parole aux auteurs, reçoit aujourd'hui Béatrice Noury pour son deuxième roman, Maria le Templier, paru en 2019 aux éditions du Pavé. Si son premier roman, Le Courage de Marie, paru en 2017, pour lequel on t'avait déjà reçu, Béatrice, édité aux Nouvelles Plumes, nous emmenait en voyage, si je puis m'exprimer ainsi, pendant la Première Guerre mondiale. Celui-ci va nous entraîner au cœur du XIIIe siècle, au sein des Guerres Saintes. Nous y retrouvons Jean et Maria, qui ne sont pas sans nous rappeler Jean et Marie. Nous retrouvons dans ce roman un fond historique extrêmement travaillé et puis une histoire d'amour de nouveau pleine d'embûches. Et donc, la première question, c'était ton entrée en matière dans ce type d'écrit. C'est d'abord l'histoire d'amour ou d'abord ni l'un ni l'autre, ou les deux?
Alors c'est sans doute la petite histoire, ouais, l'histoire avec un petit H. C'est vraiment ça qui va démarrer en fait l'aventure de l'écriture. Et c'est souvent, alors c'est un flash, ça va être un cauchemar, peut-être plus souvent qu'un rêve d'ailleurs dans les histoires qui m'arrivent. Et c'est ça en fait qui va me lancer en fait dans le parcours. Et ensuite, je vais évidemment, enfin, moi, j'ai dû me tromper de siècle, hein, vraiment. Hein, je suis très très bien dans l'histoire avec un grand H. Donc, je vais avoir souvent déjà des idées parce que j'ai assez lu là-dessus, en fait. Mais ensuite, je vais quand même remettre une couche, en fait, de vérité historique, de dates, de faits, pour contextualiser par rapport au projet qui est né en fait, parce qu'au début quand j'ai l'image par exemple du Moyen-Âge, mais pas forcément 13e, puis après ça se précise dans le 13e, et après en fait je vais bouger quelques briques pour que ça corresponde avec quelque chose sur lequel je vais pouvoir décrire en fait aussi un environnement.
D'accord.
Alors justement, ce roman nous emmène au début du 13e siècle en Égypte. Maria y est arrivée avec son père en pèlerinage, elle s'est mariée avec un médecin chrétien maronite. Il vient de mourir. Elle n'a plus sa place dans ce pays, elle y est une étrangère. Elle décide donc de partir retrouver sa famille en Bretagne avec ses enfants. Jehan est un templier. Il est à la fois chevalier et religieux, soumis à la règle très stricte de pauvreté, chasteté, obéissance et protection aux pèlerins. C'est un soldat du Christ. Nous suivons ce périple de retour, très long et dangereux, à travers l'Europe, ainsi que la complicité naissante, grandissante et pleine de culpabilité entre Maria et Jehan. André lit un premier extrait de Maria et le Templier.
L'effervescence était telle sur le quai que Maria demanda à ses enfants de rester tout près d'elle. Il était l'heure de monter à bord. Le muezzin faisait l'appel à la prière et le clocher de la petite église sonnait sexte. Guillaume arriva à toute vitesse suivi de sa sœur. « Mama, Yachik est là, lui aussi !»« Yachik ? Le vieux templier là-bas !» Maria suivit les indications de son fils pour voir monter sur le pont les deux templiers. Ainsi donc, leurs chemins se croisaient à nouveau. Quand le bateau quitta le port, Maria s'accouda au bastingage dans une prière muette vers sa terre d'adoption. Elle y avait passé les plus belles années de sa vie avec Ali et leurs enfants. Elle n'avait donc pas d'autre choix que de quitter l'Égypte, le pays de son défunt mari. Que lui réservait l'avenir ? Ne redevenait-elle pas la pèlerine d'antan ? La traversée pouvait ne pas être de tourpeau. Son voyage des portes de Bretagne vers la Terre Sainte avait duré 2 mois, dont la moitié en mer, en partant du port de Marseille. Maria avait entendu dire que 5 semaines de traversée étaient possibles, selon les vents et les rencontres. Ils allaient longer les côtes de Chypre, de Rhodes, de la Crète, avant de rejoindre la côte byzantine. Ensuite, elle allait voir comment poursuivre la route, soit en prenant le bateau vers Bari, soit par la route, en remontant vers Venise. Ah, Johan, te voilà enfin! Il nous faudra tout ton bon sens pour remplir la nouvelle mission qui nous incombe! Eudes avait les yeux pétillants de malice. Mais de quoi parles-tu? Les pèlerins! Ils sont déjà 13 à nous demander de les escorter jusque dans les Alpes. Comment cela? Ils ne souhaitent rien tant que de rentrer chez eux, et quand ils ont su que nous rentrions en Provence, ils ont tout naturellement imaginé qu'ils pouvaient former un convoi avec nous à leur tête. Il y a 3 voyageurs du Saint-Empire germanique, 2 Gallois, 4 Siciliens et la famille égyptienne. De là à ce qu'on récupère d'autres pèlerins en partance à notre arrivée à Durazzo, nous allons maintenant être 20 peut-être, ce qui va grandement nous ralentir. C'est une des missions des Templiers. Je pensais à celle que m'a donnée le maître. Jehan, nos vœux stipulent d'escorter les pèlerins. Le chevalier se tourna vers le sergent. C'était lui qui avait raison. Le 4e vœu des Templiers, après la pauvreté, la chasteté et l'obéissance, était bien sûr la protection des pèlerins sur les routes vers la Terre Sainte. Tu as raison, bien sûr, Eudes. Le frère sergent sembla retrouver toute sa légèreté habituelle. Avant de redescendre sur le pont, il lança d'une voix atone : Si tu la cherches, elle est en quarantaine. Elle est tombée malade, une forte fièvre. Le frère infirmier ne sait pas ce qu'elle a.
Bon, alors moi, avant de poser une question, je vais lire une phrase supplémentaire concernant Jehan. Bien sûr, il n'avait pas peur de la mort, lui qui l'avait si souvent donnée. Pour le Christ, oui, pour le Christ, il avait tué tellement d'hommes impurs. C'était là sa mission. Alors moi, quand j'ai lu ça, j'ai pas pu m'empêcher de que ça fasse un écho avec aujourd'hui, évidemment. Donc, la violence de la religion, quelles que soient les religions. Donc à l'époque, c'était plutôt la chrétienté. Bon, aujourd'hui, c'est autre chose. Lors des guerres saintes, mais on en a dans le livre un autre exemple par rapport au massacre des Cathares, en pays Qatar. Et puis aussi la violence générale, quoi. Parce que sur les routes, hein, on parle de la violence aujourd'hui, mais alors là, c'est rien, quoi. Ça fait un peu sourire. Sur les routes, donc les attaques sur les routes, mais aussi la violence, la mort des gens, la mort des enfants, enfin, en très bas âge, qui était monnaie courante. Donc voilà, c'était un petit peu là-dessus que je voulais
me questionner.
Si tu avais pensé aussi à tout ça, ou si. Bon, voilà, c'est une description de l'époque.
Alors, c'est une description de l'époque, et en même temps, c'est vrai que ça fait écho, et c'était surtout ce questionnement, en fait, au Moyen-Âge, il y avait vraiment une imprégnation de la religion. Donc, tout le monde croyait en un dieu, enfin, quel que soit le dieu, et c'est vraiment très très important pour eux, et en fait, ça passait même avant autre chose. Et là, on peut avoir un parallèle avec les musulmans, par exemple, qui sont d'abord musulmans, en fait, avant d'être des citoyens, par exemple. Pour certains, hein, mettons des parenthèses.
Soyons précis, pour certains.
Mais c'est vrai que là, au Moyen-Âge, on est vraiment dans la religion, elle est tout le temps là. Et on est forcément croyant, ça c'est clair. Après, moi, ce que je trouvais intéressant, c'est ce questionnement, justement, hyper philosophique pour l'époque, de se poser la question de l'incohérence entre la religion et la foi. Parce que là, justement, on a Jehan qui va être... C'est un pur, lui, hein, il est formidable, c'est un héros. Enfin, je l'adore, moi, Jehan. C'est vraiment quelqu'un qui est très pur. Et en fait, il va être confronté à ça, de jouer son rôle, d'avoir sa mission, d'y croire. Enfin, voilà, comme tu le lisais, c'est cette notion, ben voilà, j'ai tué, mais j'ai tué pour Dieu. Donc, je ne me pose pas la question. On m'a demandé de le faire, je l'ai fait, j'obéissais. Et en même temps, quand il va être confronté justement à au destin de sa propre famille qui embrasse la religion cathare, donc on disait pas cathare à l'époque, mais et qui en fait était d'autres croyants et des croyants catholiques. Hein, c'était et là il se pose des questions. Il se dit mais on les a tués. Alors ils étaient hérétiques, mais comment ça se fait qu'ils étaient hérétiques? Parce que du coup il va discuter avec des gens qui les connaissaient et qui vont expliquer les nuances en fait. Et c'est là où il peut se poser des questions sur de quel droit les a-t-on tués alors qu'ils étaient des catholiques aussi. De quel droit le pape décide de choses? Le droit décide de choses. Et de quel droit est-ce qu'il y a cette négociation en fait alors qu'il devrait pas y avoir de questionnement par rapport à la foi. Et je pense que là, il fait vraiment le distinguo en fait, entre la religion d'un côté et la foi de l'autre. Et là, ça l'anéantit en définitive. Et puis après, il va rebondir, il va se recréer, mais ça va vraiment l'anéantir. Et comme à côté de ça, bah, y a l'histoire d'amour qui naît, ça le perturbe énormément, évidemment, parce que c'est contraire à tout ce qu'il a imaginé. Donc voilà, il y a tout ça. Mais c'est vrai que par contre, et c'est peut-être pour ça que j'ai fait ces personnages-là aussi, on a vraiment des personnages qui ont plusieurs vies, en fait. Hein. Ceux qui arrivent dans la religion ont vécu avant, ou ils vivent après. Enfin voilà, on a aussi cette notion-là qui est beaucoup moins, je trouve, manichéenne que dans ce qu'on a pu faire aujourd'hui, où le prêtre, il naît prêtre et il reste prêtre. Enfin voilà, il n'y a pas du tout de... Il y a peut-être un peu plus de tolérance à ce moment-là aussi. Mais bon, voilà, c'est un peu une interprétation. Mais c'est vrai qu'il y a un parallèle, ouais.
Alors, pour enchaîner sur... il y avait une question préparée un peu plus tardive, mais pour enchaîner sur ce qu'on vient de se dire, toujours sur la question de la résonance avec aujourd'hui, moi, la lecture, et puis je ne suis pas la seule, c'est aussi la question des migrations, la question du métissage, la question du voyage qui est extrêmement présent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit les gens voyagent beaucoup, mais là, on se rend compte... Alors, les territoires sont peut-être un peu moins importants, quoique la Terre Sainte, c'est extrêmement loin du pays nantais. Et donc, il y a aussi quelque chose très en résonance, je trouve, avec toutes les questions aujourd'hui d'ouverture des frontières, de fermeture des frontières, d'intégration, de relations entre les peuples. Là, on a des Sarrasins, les Cathares, il y a des chrétiens. On parle de métissage dans le livre, hein, quand elle se marie avec le meunier qui accepte de prendre en charge 3 petits métis. En tout cas, moi, je trouve que ça fait vraiment très écho aux questions qui se posent aujourd'hui de manière assez cruciale, hein, avec ce qu'on connaît du flux migratoire, de la catastrophe pour les individus qui essaient de trouver des endroits meilleurs. Comme si ça nous renseignait sur cette question migratoire qui, en fait, est extrêmement ancienne et non pas aussi récente qu'on veut bien nous le faire croire aujourd'hui. Alors, je ne sais pas s'il y avait une intention ou si, effectivement, en décrivant l'époque, on se rend compte de ça.
Alors, je ne pense pas qu'il y avait d'intention, enfin, en tout cas, pas consciente. Après, c'est vrai que je trouve intéressant de travailler sur cette notion du voyage qui, comme on dit, forme la jeunesse, mais justement forme aussi l'être. Et cette idée aussi d'identité, de racines. Où sont les racines? Et c'est vrai que Maria se pose la question à un moment donné, parce qu'en définitive, elle a très peu vécu à Nantes. Et en fait, ses racines, c'est ses proches, c'est ceux qu'elle aime. Ils sont là, en fait. Donc, c'est vrai que on peut imaginer que ces racines, ce sont vraiment les racines régionales, locales, parce qu'en fait, toute la famille a vécu là. Mais quelque part, c'est la famille, en fait. C'est plus dans ce sens-là, en fait, que je le décris. Et on a, par exemple, aussi un Jehan qui, lui, est pas du tout dans ce contexte-là, en définitive. Lui, il se pose pas de questions de racines, en fait. Il a son identité, il avance et il se questionne pas sur son histoire. Et le voyage, c'est aussi la découverte, c'est un peu dans le sens du pèlerinage. Et là, j'ai trouvé intéressant, peut-être avec l'écho de... Il y a beaucoup de tendances aujourd'hui pour refaire le chemin de Stevenson ou le Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais c'est vrai qu'en définitive, quand on marche, on a vraiment aussi cette sensation de revenir à soi et puis peut-être de se questionner et de philosopher aussi, en fait, sur sa place, en fait. Et puis peut-être une inscription dans le... sur la terre aussi, enfin dans le monde naturel, qui est peut-être intéressant. Enfin voilà, il y a peut-être ces questionnements. Mais là, tu me prends de court.
Alors, c'était pas l'intention, mais c'était assez intéressant, en fait, parce que c'est la question de la résonance avec l'actualité. En lisant, tout d'un coup, ça saute un peu aux yeux, des choses qu'on ne connaît pas ou qu'on a oubliées, mais... Enfin, moi, j'ai toujours...
Alors, c'est vrai qu'au Moyen-Âge, il y avait une ouverture obligatoire, parce qu'en fait, il y avait tellement de langues, tellement de cultures, que je me suis même un peu posé la question sur l'usage du latin, par exemple, ou la capacité à apprendre plusieurs langues quand on était marchand. Il y avait plusieurs points de foire, en fait, sur la France de l'époque, ou sur l'Allemagne de l'époque, mais... je sais pas comment ils faisaient, parce que c'était pas la même monnaie, c'était pas la même langue, c'était pas les mêmes usages. Ça devait être super compliqué, mais très, très riche en termes d'échanges et de culture. Donc, on avait aussi cette vision-là. Enfin, je pense qu'il faut éviter de penser le Moyen-Âge comme quelque chose d'étriqué et de barbare. En fait, il y a vraiment une culture très riche de l'ouverture aussi, justement, par rapport à ça. Et puis là, il y a souvent la place de la femme aussi, hein, dans Le Courage de Marie, c'était ça, mais on retrouve aussi cette idée que au Moyen-Âge aussi, vu l'espérance de vie, il y avait forcément des remariages. L'homme, alors c'est pas parce que l'homme ne savait pas faire se cuire un œuf, hein, c'est que l'homme ne pouvait pas vivre seul, il pouvait pas subvenir aux besoins de la famille tout seul, et la femme pareil. Donc il y avait beaucoup de remariages, donc beaucoup de familles recomposées. Et ça, c'est pas moderne du tout, c'est très ancien.
Oui, oui, les mariages ne duraient pas 40 ans ou 50 ans.
Non,
ça, c'est sûr.
Et c'était des remariages de raison aussi, mais pas que. Enfin, voilà. Donc voilà, c'est un petit peu ces messages-là aussi que j'essaie de pousser par rapport au Moyen-Âge.
Ouais. Alors, on arrive à la pause musicale. Béatrice a choisi Hildegard de Bingen, une religieuse compositrice du XIIe siècle. Donc ça, c'est un petit clin d'œil aux féministes. Et c'est absolument magnifique. Donc nous passons le début du Canticle of Ecstasy. Alors, retour à aujourd'hui. Vous êtes bien sur Jet FM 80.2. Nous sommes en compagnie de Béatrice Nourry pour son roman Maria et le Templier. André, donc tu vas nous faire une deuxième lecture qui a été choisie par Béatrice, exceptionnellement.
Dans la cour de la commanderie, le groupe de pèlerins était prêt. Il y avait là des habitants du Saint-Empire germanique et des Danois. Maria rejoignit ses compagnons de route. Les trois chevaliers et les deux frères sergents qui guidaient ce nouveau convoi sortirent du cloître. Habillés de propre, ils avaient fière allure. Le chevalier von Bingen salua chacun. Maria, veuve avec des enfants, était différente des marchands du groupe de pèlerins. On voyait bien aussi qu'elle était moins argentée. Maria portait le petit Selim sur le cheval de bas quand elle entendit la voix de Jehan de Kerak appeler sa fille. Leïla sursauta, s'approcha du Templier qui mit un genou à terre. C'est en arabe qu'il parla doucement à l'enfant en lui tendant un étui en cuir brun où devait loger un petit poignard, étui autour duquel était enroulée une ceinture du même cuir. « Leïla, tu es assez grande maintenant pour pouvoir te défendre. Tu auras peut-être besoin de seconder ton frère et ta mère, voire de venir à leur secours s'ils ne peuvent vous défendre. Qu'à Dieu plaise que cela n'arrive pas. » Leïla a eu le réflexe de regarder sa mère pour avoir son accord. D'un signe, Maria acquiesça et Leïla remercia très poliment le chevalier. « C'est là un présent que je n'oublierai jamais, frère chevalier. Grand merci. » Puis spontanément, la fillette poursuivit en se jetant dans les bras du religieux qui ne s'était pas relevé et qui la serra contre lui. « Choukran, choukran, Jehan !» Maria, émue, se rendit compte, en percevant le goût du sang dans sa bouche, qu'elle se mordait la lèvre inférieure. Dans le regard qui croisa le sien, elle découvrit une intensité qui la fit frissonner. Elle lui dit adieu, sans un mot. Elle comprenait avec force combien il était douloureux de partir, de le quitter. Et cette sensation, aussi piquante, aussi vive, plus qu'une perception autre qu'un vague sentiment de regret, cette sensation, elle la vivait dans son corps, complètement. Elle vit qu'il lui disait adieu avec la même douleur. Il fut le premier à baisser les yeux, il serra encore l'enfant et la relâcha doucement avant de se relever. Van Bingen annonça le départ, la colonne s'ébranla. Maria, pour remercier du cadeau, salua alors Jehan de Kerak du geste de paix des Arabes en silence. « Que la paix soit avec vous, chevalier !» exprima alors Maria avec des gestes lents et précis. La main sur la bouche pour représenter la parole, sur le front pour la pensée, puis sur le cœur pour les sentiments. Cela résumait tout. Elle avait envie de pleurer.
Béatrice, on va revenir au cœur aussi de nos romans, qui est paru à Maria et Templier aux éditions, non pas du pavé, mais du petit pavé. J'en profite pour rectifier
oui, tout à fait.
Une petite erreur de départ. Donc dans le roman, on a parlé effectivement des résonances avec l'actualité, les thèmes d'actualité, mais il y a quelque chose aussi de récurrent, si on revoit avec Le Courage de Marie, dont le titre nous annonçait, si j'ose m'exprimer ainsi, un peu la couleur. Là, on retombe avec une femme, effectivement on parle des remariages, des choses comme ça, des familles recomposées, mais une femme forte, hein, alors une femme avec des enfants, seule, et puis là aussi ce qui est étonnant, compte tenu de l'époque, du danger dont Martine parlait tout à l'heure, une femme qui voyage seule, une femme qui déplace une famille alors qu'elle protège, mais là aussi, ça vient taper dans peut-être la représentation qu'on a de la place de la femme, en tout cas, alors qui peut-être était entre et domination et une certaine forme de d'autonomie malgré tout, parce que c'est pas évident, affronter le danger. En tout cas, on a découvert aussi peut-être quelque chose autour des personnages de femmes qui sont peut-être un peu différents de ce qu'on pouvait imaginer.
Oui, tout à fait. Puis on a beaucoup d'a priori, en fait, sur cette période-là, enfin surtout sur le Moyen-Âge. Après, c'est vrai que moi, mes personnages, parce que Marie et Jean, en fait, là, j'ai deux romans qui sont édités, je suis en train de travailler sur un autre. J'en ai déjà envoyé un aussi à mon nouvel éditeur, Le Petit Pavé, qui se passe aussi au Moyen-Âge, mais plus vers la fin du XIIIe. Donc Marie est enlumineuse et Jehan, là aussi, puisque on est sur le même personnage et Fauconnier. Mais voilà, on est vraiment sur cette idée que Maria est une femme forte, en effet, qui ose, qui a un métier, qui a une place dans la société, dans sa société, une place dans sa famille. Et puis Jehan a aussi cette place par rapport à son projet ou à sa famille. Voilà. Mais l'idée, là, c'était vraiment de déconstruire un petit peu les a priori du Moyen-Âge, enfin, comme moi je les perçois, comme moi je les ai lus aussi, hein, en étudiant aussi cette période-là. Le Moyen-Âge a souvent été vu comme une période un peu noire, barbare. Alors c'est clair qu'il n'y avait pas la médecine, il n'y avait pas tout ça, mais on avait vraiment quelque chose de simple peut-être, mais pas si noir que ça. Et ça a souvent été étudié par des historiens ou construit en fait au XIXe siècle avec une autre philosophie aussi du parcours historique. Et aujourd'hui, je pense qu'on le revoit différemment. Et c'est vrai que quand il y a heureusement des recherches scientifiques qui permettent de découvrir différemment des sépultures ou des éléments historiques, on découvre en fait que la réalité n'est pas celle qu'on imaginait au début du XXe ou à la fin du XIXe. Et moi, j'avais vraiment envie de retranscrire ça, quoi. Que la femme, il y avait peut-être pas, c'était pas forcément un inversement des rôles, hein, c'est pas ça, mais il y avait beaucoup plus d'équilibre qu'on ne l'a cru, et donc il y avait des bouchers et des bouchères, et c'était pas la femme du boucher, et c'était pas la fille du boucher, c'était vraiment la bouchère, et c'est après plutôt vers le 15e que ça commençait à se casser la figure en fait, jusqu'à ce que ça arrive au 18e où c'était pas top, mais le Moyen-Âge n'est pas si noir que ça, donc j'avais vraiment envie de retranscrire ça.
Bon, alors, on arrive à la fin de l'émission. J'ai oublié de te demander avant, est-ce que tu voulais parler du concours de poésie?
Oui, tout à fait, tout
bah,
à
vas-y,
fait.
En plus, il n'y a pas de musique pour la fin, donc d'accord. Vas-y.
Donc, rapidement, en fait, on a, avec des amis, et puis une partie avec l'association des romanciers nantais, et puis Éric Perrault, qui fait partie aussi de l'association des Iliens, et qui faisait partie de la conférence permanente Loire, en fait, il y a 3 ans, on a monté un concours de nouvelles sur la Loire, justement, qui s'appelle la Loire dans tous ses états. Et en 2019, on a eu un joli petit succès, et j'ai ressorti mes notes parce que ça, je m'en souviens pas. On a eu 85 nouvelles qui nous sont parvenues. Et puis on avait une doyenne qui avait 91 ans et la plus jeune 12 ans. Et on a renouvelé ça l'année dernière, et là, on a reçu 359 nouvelles et 275 participants répartis sur 43 départements et 7 pays, cette fois-ci. Et on va avoir, du coup, là, on a eu plusieurs séances, en fait, avec le jury pour déterminer les gagnants, en définitive. On a reçu tout fin octobre, et la remise des prix aura lieu, si tout va bien, et on croise les doigts, et je suis en train de le faire, là, le jeudi 27 janvier. Mais tout dépendra de la situation sanitaire, évidemment. Et là, on pourra justement rendre les prix et puis annoncer en fait les gagnants pour la poésie, les 12 nouvelles et puis les 6 poésies gagnantes. Donc ça va être un super joli événement à prévoir.
D'accord, on aura un petit peu dépassé, donc on va mettre un petit peu de musique quand même. Allez, Dan Arbaz, Borders of Soul. Au revoir à tous et à toutes.
Merci.
Land of the seas, green land of mine, borders of sound, borders of sand, riddled with dreams, green land of ours. Days of misfortune.